Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Capital sur Radio Grand Ciel. C'est une émission proposée par Christine Infota et
Elisabeth Couget.
Alors nous partons aujourd'hui à Montréal, capitale du Québec.
Oui, le Québec étant une province du Canada dont la capitale est en fait Ottawa. Au moment de la constitution du Canada en 1840, se posa le choix d'une capitale. On hésitait entre Montréal et Toronto. Et les deux grandes villes à l'époque. Mais Montréal aurait donné l'avantage aux francophones, Toronto aux anglophones. En désespoir de cause, la reine Victoria fut consultée. Elle regarde la carte du pays et choisit une toute petite ville, Bytown, à la frontière du Haut-Canada, l'Ontario, et du Bas-Canada, le Québec. Bytown est rebaptisée Ottawa.
Alors donc Montréal est capitale du Québec, ville francophone.
Et l'une des plus grandes villes francophones au monde. Elle compte 1 800 000 habitants et regroupe près de la moitié de la population du Québec.
Alors, peux-tu nous situer exactement Montréal ?
Montréal est à l'est du Canada, dans une boucle du Saint-Laurent qui la borde au sud. Et au nord, elle est bordée par la rivière des Prairies. En fait, Montréal est une île de 500 km², même un archipel, on pourrait dire, parce qu'il y a plusieurs îles. Et elle est reliée au continent par 22 ponts.
Ah oui, pas moins. Alors Montréal, c'est-à-dire le Mont Royal, c'est ça ?
Alors effectivement, oui, la ville est au pied du Mont Royal, qui culmine à 232 mètres d'altitude.
Et c'est Jacques Cartier qui le premier découvre cet endroit.
À l'automne 1534. Jacques Cartier, c'est un explorateur breton qui est originaire de Saint-Malo et il remonte un grand fleuve. Il prend possession du Canada au nom du roi de France. En fait, Jacques Cartier se croyait arrivé en Chine. On est le 2 octobre 1534. Jacques Cartier consulte le calendrier, c'est la Saint-Laurent.
Eh bien, le fleuve sera donc baptisé le Saint-Laurent.
Voilà.
Tout simplement.
Et Jacques Cartier remonte le fleuve jusqu'à une petite ville peuplée d'Indiens Iroquois. Une petite ville qui s'appelle Hochelaga et qu'il va baptiser Montréalis en l'honneur du roi. Hochelaga compte alors 1500 habitants et c'est encore aujourd'hui le nom d'un quartier de Montréal.
Alors dès 1575, Montréalis devient Montréal.
Au-delà de Montréal, Jacques Cartier est très vite arrêté par des rapides qu'il appelle la Chine, croyant fermement être arrivé au Céleste Empire. Voilà, d'autant que les Iroquois ont le type asiatique.
Ah,
et
ça.
Les rapides, aujourd'hui, ils sont canalisés, ils s'appellent toujours les rapides la Chine.
Ah ben d'accord, oui, tout simplement. Puis c'est une deuxième étape qui arrive au tout début du XVIIe siècle, avec les expéditions de Samuel de Champlain.
Samuel de Champlain, lui, vient de Brouage, en Charente-Maritime, et c'est un géographe du roi. Il part, lui, dès 1603, pour des raisons économiques, en fait, pour les fourrures, pour le commerce des peaux. Et à partir de 1627, Richelieu va décider d'envoyer 300 colons catholiques par an là-bas. En 1642, une troisième grande étape, puisque c'est le moment où va s'établir la société Notre-Dame de Montréal, fondée par Jean de Maisonneuve et Jeanne Mance. Et là, il s'agira avant tout d'évangéliser les Indiens.
Alors comment cela passe-t-il? Parce que ça paraît être simple.
Les débuts ont été difficiles. En fait, les colons sont retranchés dans un fort et subissent les attaques des Iroquois. Le Canada devient, on peut dire, la cible préférée des missionnaires français qui y affluent, mais ces missionnaires, à leur tour, deviennent la cible des Iroquois.
Chacun le cible de quelqu'un. Alors, à cette époque, on n'a pas trop envie de partir au Canada, j'imagine. D'une part, il y a un froid rigoureux, comme inconnu en France, et les attaques des Indiens.
Oui. Et du coup, la France décide de stimuler l'émigration en envoyant, dès 1663...
Ah, c'est l'époque donc de Louis XIV.
C'est ça. Plusieurs centaines de jeunes filles au Canada pour s'y marier. C'est ce qu'on appelle les filles du roi. Voici par exemple ce qu'écrit le gouverneur de la Nouvelle-France en accusant réception des premières filles du roi. On nous a envoyé 84 jeunes filles de Dieppe et 25 de La Rochelle.
Alors, et aussi, il y avait
la
chanson.
Oui, c'est ce à quoi fait allusion cette chanson. « Sont les filles de La Rochelle grand armées ». Voilà, j'en dis pas plus. Les auditeurs pourront continuer.
Oui, s'ils connaissent.
Ces jeunes filles se marient, fondent une famille. La belle province, le nom qu'on donne au Canada, au Québec, se développe et l'agriculture progresse.
Mais l'Angleterre a des vues sur le Canada. Il se bat pour le conquérir entièrement. Ça me fait penser à l'oiseau au coucou. C'est ça qui rentre.
Qui rentre une fois que tout une est fois bien que installé.
Une fois que le nid est bien préparé, voilà, c'est ça. Ça rappelle un peu...
Oui.
Bon, et le Canada n'est pas le seul exemple, mais enfin, c'est une autre histoire.
Et oui, tout à fait. Après 150 ans d'occupation française, en 1759, les Anglais vont l'emporter avec la défaite française à la bataille des plaines d'Abraham, où d'ailleurs sera tué le marquis de Montcalm. Et donc, Montréal capitule. La France, par le traité de Paris en 1763, cède tout le Canada à la Grande-Bretagne. C'est la fin de l'occupation française. Les Québécois sont abandonnés par Louis XV. Montréal devient anglophone.
Mais avec la paix et la main-d'œuvre, puisqu'il y a beaucoup d'immigrants, la ville prendra son essor. Montréal deviendra une ville carrefour.
Relié par voie fluviale au Grand Lac des États-Unis, le Saint-Laurent est très très long, 1140 km.
Ah oui.
Et au cours du 19e siècle, Montréal est aussi relié par le train à tout le Canada, jusqu'à Vancouver, c'est-à-dire 3700 km de voie ferrée. Le port de Montréal devient le plus actif du Canada et le deuxième d'Amérique du Nord après New York.
Ah oui, pas rien. Hein. Alors, Montréal va devenir une cité industrielle très imposante et très prospère.
Et c'est le moment où est fondée la première université, McGill, l'université anglophone, qui s'établit au pied du Mont-Royal, suivie de l'université francophone de Laval. Et en 1880, ou aux alentours de cette date, il y aura une nouvelle vague d'immigrants qui afflue, et cette fois-ci d'Italie, de Russie, d'Europe de l'Est. Et le milieu du XXe siècle va voir Toronto prendre la tête et devancer cette fois Montréal. Mais à Montréal, les francophones résistent et luttent pour leur langue et leurs droits.
Alors c'est ce qu'on appelle la revanche des berceaux, n'est-ce pas? Puisqu'ils font beaucoup d'enfants.
Oui, comment faire pour ne pas être dominé? Avoir beaucoup d'enfants.
Ah, voilà, c'est tout simple.
Alors, c'est ce que prônent les prêtres, dont l'influence est encore très grande dans les années 60. Les francophones ont des familles de 12, 15, voire 20 enfants et noient la communauté anglophone beaucoup moins prolifique.
Et ben voilà, c'est une chose à retenir quand même, même dans notre quotidien aujourd'hui. Depuis 1977, le français est redevenu la langue officielle du Québec. Tout le monde parle français à Montréal.
En fait, c'est une ville multiethnique, multiculturelle et polyglotte. Un fascinant mélange de populations. Une ville très cosmopolite. 50% de la population, c'est-à-dire la majorité, est de langue française. Il y a seulement 13% d'anglophones.
Mais c'est aussi une capitale au climat particulièrement rigoureux.
L'hiver est glacial. 6 mois de neige, de novembre à avril, avec une température de moins 20 en moyenne. Et le thermomètre descend certains jours en dessous de moins 30. Puis, c'est la fonte des neiges, ce qu'on appelle le slush, c'est-à-dire le bruit caractéristique des plaques de neige tombant des toits. Le printemps est court et laisse la place à l'été très chaud.
Et ensuite vient l'automne. Au début de l'automne, c'est le merveilleux été indien. Les érables se colorent de rouge écarlate.
C'est la symphonie du Nouveau Monde. Un moment magique. On l'appelle l'été indien car les Indiens d'autrefois, profitant du redoux, s'enfonçaient dans les bois pour constituer des réserves.
Alors profitons-nous aussi de ce moment magique en écoutant un extrait de la symphonie du Nouveau Monde d'Anton Dvorak. Vous êtes sur Radio Grand Ciel toujours et vous écoutez notre émission Capitale. Alors, avec Christine Anfotin, nous visitons Montréal aujourd'hui.
Alors, que visiter à Montréal? Bon, rappelons d'abord que Montréal est une ville nord-américaine. Il y a certes un centre historique du XVIIIe siècle, avec des rues étroites et pavées autour de la place Jacques-Cartier, mais ce n'est pas vraiment une vieille ville à la française. C'est assez disparate, en fait. Les maisons anciennes côtoient des entrepôts. Les églises sont encadrées par d'immenses gratte-ciel. Ici, de vieilles demeures victoriennes, un peu plus loin, des bâtiments de béton.
Alors, on peut peut-être commencer par visiter le château Ramsay, qui date de 1705.
Oui, et qui est l'ancienne résidence des gouverneurs de Montréal. Ce château Ramsay a été vendu en 1745 et a servi ensuite d'entrepôt de fourrures et d'épices, puis de refuge pour les loyalistes américains.
Oui, c'était donc des fidèles à l'Angleterre. Hein.
C'est ça, qui ne voulaient pas devenir faire partie d'une Amérique indépendante. Et ce château Ramsay est un musée depuis 1895.
Alors, il y a la cathédrale de Montréal.
Elle est construite en 1824, cette cathédrale, et elle donne une impression de richesse et de chaleur avec son décor de bois sculpté, peint et doré à la feuille. Et sa voûte en cèdre bleu est constellée d'étoiles dorées.
Oui, c'est tout à fait merveilleux. Hein.
Oui, c'est vrai.
Alors, il y a le marché, il y a les marchés.
Il y en a plusieurs. Et puis le célèbre marché Bon Secours, qui est un bel édifice à dôme de 1847. Et on trouve là un large éventail de l'artisanat du Québec. Mais il y a aussi certains quartiers de la ville qui offrent des balades très intéressantes. C'est le cas, par exemple, du plateau Mont-Royal, à ne pas confondre avec le Mont-Royal. Et dans ce quartier du plateau Mont-Royal, c'est là qu'on trouve ces jolies maisons typiques de Montréal, qu'on ne trouve que là, avec leurs escaliers extérieurs métalliques en colimaçon.
Alors pourquoi, justement, je me suis posé la question, pour quelle raison ces escaliers sont-ils extérieurs?
Eh bien, d'abord par souci d'économie, pour éviter d'avoir à chauffer des cages d'escalier. Et puis c'était aussi un souhait du clergé qui préférait que les jeunes femmes, les jeunes filles ne fassent pas de mauvaises rencontres. Au vu de tous, dehors, on les voit.
Ah d'accord. Alors il y a quand même un problème parce que...
Oui, alors il y a un gros problème, c'est que ça peut tourner au cauchemar ces escaliers en hiver, quand il faut les descendre par moins 20 degrés et qu'ils sont glissants et couverts de neige épaisse.
D'accord,
voilà.
Alors, à Montréal, il y a le grand boulevard Saint-Laurent qui coupe la ville en deux.
Et qu'on appelle aussi la Main Street, en fait, la grande rue. Et c'est une frontière culturelle. Donc, à l'ouest, les anglophones, avec le quartier résidentiel de Westmount. À l'est, les francophones et les usines. Au sud, c'est le quartier historique du vieux Montréal.
On peut aussi se promener sur le Mont-Royal, je suppose.
Oui, le Mont-Royal, donc on l'a dit, est haut de 232 mètres. Il se trouve au centre de Montréal et offre un parc de 200 hectares. Il est surmonté tout en haut d'une croix lumineuse depuis 1924. Et aucun gratte-ciel n'a le droit de dépasser le Mont-Royal.
Ah, et sur une pente de Mont-Royal se trouve l'oratoire Saint-Joseph aussi.
Oui, un oratoire, une église immense et austère. Il a un énorme dôme qui est presque aussi grand que celui de Saint-Pierre de Rome. Et c'est un lieu de pèlerinage très fréquenté. Pour l'atteindre, il faut gravir 99 marches. Et on voit des pèlerins le faire à genoux en récitant un Ave Maria par marche.
Ça doit prendre un certain temps. Alors le Mont-Royal est un endroit de promenade très apprécié, bien entendu.
Oh, oui, en hiver, on patine sur le lac des Castors, on y randonne en ski de fond. En été, c'est le rendez-vous des joggeurs. On vient y pique-niquer en famille au milieu d'une ribambelle d'écureuils gris.
Alors ça, c'est la nature et les marchés dont nous parlons, mais il y a des musées, certainement,
bien
c'est une ville culturelle.
Bien sûr. Je conseillerais spécialement le musée Pointe-à-Calière. C'est sur le port, là précisément où débarqua Samuel de Champlain. Et c'est un musée vivant et passionnant. Un témoignage archéologique et historique vraiment exceptionnel. Au sous-sol, on découvre une crypte archéologique et puis les ruines du premier cimetière catholique. C'est très émouvant, d'autant plus que la plupart, on voit qu'ils ont été en fait tués sous les flèches iroquoises.
On peut voir aussi certainement dans ce musée des immigrants. Alors en fait, virtuels, peut-être.
On voit des immigrants tout à fait virtuels nous parler en 3D, grâce à la technique des hologrammes, de leur arrivée à Montréal, de la vie à cette époque. On peut les questionner, les interroger. C'est tout à fait saisissant.
C'est peut-être surprenant, oui. Tout à fait. Y a-t-il d'autres suggestions à nous faire?
Oui, par exemple le musée des Beaux-Arts qui présente une collection fabuleuse d'art inuit, donc d'art esquimau et amérindien. Et puis alors, beaucoup plus près de nous, le parc Jean Drapeau nous invite à découvrir le site de l'exposition universelle qui eut lieu en 1967. Et c'est aujourd'hui un lieu de détente qui est surtout axé sur le divertissement et le sport.
C'est dans ce parc que se trouve le Biosphère. Tu peux nous en parler ?
Oui, bien sûr. Cette biosphère a été construite pour l'exposition en 1967. Et c'est une énorme boule de, justement, 67 mètres de haut.
Voilà.
Et c'est devenu le symbole architectural de Montréal. La biosphère abrite des expos diverses, en particulier des expos sur la technologie verte ou bien les énergies alternatives.
Déjà, ils y ont pensé en ce moment,
très important. Et puis plus loin, il y a cet extraordinaire jardin botanique dont un petit train fait le tour. Mmh. On peut voir le jardin chinois, le jardin japonais avec des bonsaïs centenaires, le jardin des Premières Nations à l'époque des Indiens, sans oublier l'insectarium.
Et le biodôme.
Le biodôme, alors, qui offre une autre visite inoubliable et présente quatre grands systèmes recomposés avec leurs plantes, leurs flores, leurs parfums, leurs sons. Alors ces quatre grands systèmes sont, et nous pénétrons vraiment à l'intérieur, de la forêt tropicale, de la forêt laurentienne, du Saint-Laurent marin et du monde polaire.
Absolument, c'est tout à fait exceptionnel.
Ouais.
Les enfants
adorent.
Se régalent, tout à fait. Mais les adultes aussi.
Aussi.
Alors tu peux nous parler aussi, s'il te plaît, des fameuses galeries de Montréal qui protègent les promeneurs.
Alors, ces galeries souterraines tissent un véritable réseau sous la ville de plus de 35 km. Elles relient 13 stations de métro, 2 gares, offrent environ 2000 boutiques, restaurants, banques, hôtels, cinémas, etc. Et le tout, grand avantage, sans mettre le nez dehors, et ce qui est vraiment un attrait capital quand il fait moins 20.
Alors, je crois aussi que l'architecture très éclectique de Montréal, on a fait un lieu de tournage de films très apprécié, puisqu'on y trouve tout.
C'est tout à fait exact. À Montréal, on trouve tous les types de décors, depuis les maisons victoriennes jusqu'au gratte-ciel à l'américaine, en passant par les immeubles de bureaux du Vieux-Montréal, qui ressemblent beaucoup à ceux de New York. Et comme les tournages y sont beaucoup moins coûteux,
forcément, ça attire des cinéastes. Mais Montréal n'est pas seulement un décor de cinéma, c'est aussi une ville animée, vivante.
C'est vrai, c'est une ville chaleureuse avec quantité de festivals, de fêtes. Une ville où il fait bon vivre malgré le froid. Une ville sportive aussi. Et pour les Montréalais, le hockey sur glace est une vraie passion. D'ailleurs, je peux peut-être citer leur slogan, « Go, Habs, go
!» Voilà, alors maintenant, on va prendre tout de suite une nouvelle pause musicale en compagnie du slameur Grand Corps Malade.
Qui nous chante à Montréal, qui nous dit à Montréal.
Je reprends. Vous écoutez sur Radio Grand Ciel notre émission Capitale et aujourd'hui nous sommes à Montréal. C'est une ville bien accueillante, n'est-ce pas Christine ?
Une ville qui cultive un véritable art de vivre avec ses parcs, ses rues fleuries, ses petits jardins. L'été, c'est la bicyclette qui est reine et
la petite reine,
voilà. Et l'hiver, les rois, ce sont les patins à glace et les skis de fond. Les journées sont affairées, les nuits sont agitées et joyeuses. Et certes, l'hiver est très rigoureux, mais lorsque la neige fond et qu'en mai apparaissent les premiers bourgeons, comme par miracle, en quelques jours, toute la ville se met en tenue d'été.
Et les Québécois se sentent-ils proches des Français ?
Ce qui caractérise les Québécois, c'est l'humour, la chaleur et la simplicité aussi. D'ailleurs, parfois, ils trouvent les Français un peu arrogants. En fait, ce sont des Latins, mais surtout des Nord-Américains, c'est-à-dire pragmatiques, pas compliqués. Et ce caractère a été forgé par leurs ancêtres pionniers qui ont lutté pour s'implanter dans un paysage de neige où il gèle à pierre fendre. Et donc, ils ont l'esprit pionnier. Et c'est bien différent des valeurs et des références françaises qui sont ancrées dans une continuité historique.
Ah oui. Mais ils sont aussi... Ils ont lutté aussi, bien entendu, ces Canadiens pour garder la langue française.
C'est la seule société en dehors de la France qui est composée de descendants directs des Français. On peut dire que ce sont nos cousins nord-américains. Et rappelons d'ailleurs la belle devise du Québec, « Je me souviens ». Et c'est un bonheur de partager une langue commune.
Bien sûr, en plus, ils ont de savoureuses expressions avec un accent inimitable. Ce sont eux les vrais défenseurs de la langue française, je crois.
Bien plus qu'en France. Et comme le dit Robert Charlebois, nous, on doit défendre la francophonie au couteau, alors que vous, Français, vous la défendez avec une fourchette à escargot.
Oui, ça c'est vrai. Les Québécois traduisent tous les anglicismes.
Oui.
Alors, il y en a certains, et puis quelques mots et quelques expressions assez particulières. On peut peut-être en dire, par exemple, comment disent les Canadiens « stop » ?
Eh bien, partout dans le monde, on dit « stop », mais au Québec, on ne dit pas « stop ». C'est marqué « arrêt ».
Parking ?
Alors, parc de stationnement.
Le week-end ?
On ne dit pas « week-end », on dira toujours « fin de semaine ».
Le drive-in ?
Le service au volant.
Ce n'est même parfois assez drôle, d'accord. Alors, comment on dit, un hot dog?
Un hot dog? Ah bon, jamais on dira un hot dog au Québec, c'est un chien chaud.
Et rocking chair?
Une chaise berçante.
Mais c'est joli comme tout. Hein. Mmh. Pour la fête de Thanksgiving, qu'est-ce qu'ils disent?
Alors, ça existe aussi, mais bien sûr, ça devient la fête de l'action de grâce.
Et puis, il y en a d'autres expressions assez typiques, comme par exemple, quand on se gare sa voiture, comment on dit ?
Alors, on dit « parquer son char ». Et d'ailleurs, sais-tu que pour dire « conduire », par exemple, « conduire une voiture », on ne dit pas « conduire », on dit « chauffer ».«
Chauffer ».
Et tu sais, et on retrouve ça dans le mot « chauffeur ».
Ah oui, tout à fait. Alors, ma tendre amie, par exemple ?
Ma blonde. Auprès de ma blonde.
Ah ben voilà. Et alors, mon copain ?
Mon chum,
c'est pas mal ça. Et c'est vieillot ?
C'est vieillot, c'est nul.
C'est que t'aine. Voilà. Un débardeur, c'est un quoi ?
Une camisole. Tu as mis ta camisole ?
De force, non. Et les bottes ?
Alors, les bottes, c'est drôle parce que ce sont des claques. Ah. Une toute petite anecdote là-dessus. Parfois, lorsqu'on achète une paire de chaussures, on voit dans les magasins, les claques, en fait, ce sont des surbottes, des bottes qu'on met au-dessus de ses chaussures. Et on voit dans les magasins, pour tout achat de chaussures, vous avez droit à une paire de claques gratuites.
Et alors, qu'est-ce qui reste encore ? En hiver, ces mitaines, ce sont des...
Alors, on met ses mitaines en hiver et on met sa tuque, c'est-à-dire son
tuque,
bonnet.
C'est un bonnet.
Voilà, car il fait frette. Et frette, ça veut dire glacial.
Ah, d'accord. Alors, après ce passage de dictionnaire franco-québécois, qu'est-ce qu'il disait encore Charlebois, il disait « Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver ».
C'est tellement vrai, ça. Dès septembre, d'ailleurs, on rend visite au garagiste. Il est temps de changer le tailleur de son char. Autrement dit, d'équiper sa voiture de 4 solides pneus neige. Mmh. Fin septembre, on calfeutre les fenêtres. Dès la mi-août, prévoyant, on a sorti les habits d'hiver. Et dans le coffre de la voiture, on vérifie le kit de survie. Pelle, grattoir, gants, sac de couchage, couverture, bougie, allumettes. Il ne faut surtout rien oublier.
Ah oui. Car dès le mois d'octobre, on voit arriver les premiers flocons de neige.
Eh oui. Après l'été indien, le froid s'installe et devient une préoccupation primordiale. Le matin, on se lève une heure plus tôt en hiver pour déblayer la neige devant la porte.
Et j'imagine que pour affronter l'hiver, il faut une nourriture qui tienne au corps.
Effectivement. Les plats typiques servent avant tout à affronter les rigueurs du climat. Les fèves au lard, la soupe au pois, les tartes au bleuet, c'est-à-dire ces grosses myrtilles, les tartes aux noix de pécan, au sirop d'érable, et sans oublier la poutine.
La poutine.
Oui, en fait, ça n'a pas du tout aucune référence à la Russie. La poutine vient justement de l'anglais pudding.
Et la poutine
au Québec.
C'est un gâteau.
Non, ce sont des frites, avec une sauce brune à la viande, plus des morceaux de fromage. En fait, c'est un vrai non-sens diététique, mais c'est quand même addictif. Et il y a même d'ailleurs un restaurant à Montréal qui s'appelle À la banquise, qui propose une grande variété de poutine.
Poutine, je ne sais pas comment en offrir au président des Russes. Alors, tu parlais des sirops d'érable. L'érable qui ont le drapeau du pays, c'est tout un symbole.
Non seulement l'érable illumine l'automne, mais avec l'équinoxe du printemps, il annonce le temps des sucres. La sève de l'érable monte vers la fin mars. En avril, c'est l'époque des balades vers les cabanes à sucre. La neige recouvre encore le sol et la cueillette, qu'on appelle la tire, se fait en raquette ou en traîneau tiré par un cheval. Ah, quel bonheur au début du printemps de déguster une tire d'érable sur neige et de se sucrer le bec, selon l'expression québécoise, en disant adieu à l'hiver.
Et oui, heureusement que nous terminons par la fin de l'hiver, n'est-ce pas? On préfère le printemps, c'est plus agréable. Merci Christine d'avoir évoqué pour nous Montréal, capitale du Québec. Cela nous donne envie de chanter avec Robert Charlebois.
Je reviendrai à Montréal. Merci Elisabeth.
Merci Christine, à bientôt pour une prochaine émission Capitale.